d'événements qui doivent être présents et sans lesquels ça ne va pas marcher.
Première essentielle, c'est la légitimité de chaque membre du collège. Comment est-ce que chacun est là, à sa bonne place, et est-ce que sa présence dans le collège est légitime ou pas? Vous pouvez imaginer si elle n'est pas légitime, ça va poser des problèmes. Alors, d'où vient la légitimité de chaque membre au sein d'un collège d'anciens? J'ai une petite liste. D'abord, une vie conforme aux critères bibliques. Alors, bien sûr, on dit « bien sûr ». Mais on rencontre malheureusement un peu trop souvent des personnes dans ces places-là et dont la vie n'est pas conforme. Et ça posera sans faute des problèmes. Ensuite, il faut qu'il y ait l'appel du Seigneur dans la vie de cette personne. On a lu dans Pierre que ce soit de manière volontaire. C'est quelqu'un qui sent aussi que le Seigneur l'appelle à cette tâche. Ce service va être librement consenti. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé comme ça avec quelqu'un qui le poussait, il faut que ce soit toi, sinon on ne pourra pas fonctionner.
Là, tout est la question du mode de choix, par exemple, ça.
Oui.
Tu l'as développé chacun ou...
Je ne vais pas forcément développer chaque thème. Mais si tu as envie de dire quelque chose...
Parce que l'appel du Seigneur, moi, qu'est-ce qu'on met derrière?
Oui. Je dirais simplement que je pense que ça se discerne de manière collective. On a parlé du discernement collectif déjà. Donc, la personne, bien sûr, et les autres aussi. Ensuite, la reconnaissance de l'Assemblée. Ça varie d'une assemblée à une autre, la manière dont ces anciens vont être reconnus, mais il faut que l'assemblée puisse se prononcer sur la légitimité des anciens, parce que sans cela, eh bien, ça ira au clash à un moment donné. Je dirais aussi que l'aval de la famille, de l'épouse, est prioritaire. C'est que dans notre assemblée, quand ça se passait, c'était d'abord le collège d'anciens qui discernait quelqu'un qui voyait, qui pourrait avoir cette fonction. Et avant de soumettre le choix à l'assemblée, on allait visiter le couple. On passait au minimum une soirée ensemble pour discerner est-ce que cet ensemble que vous prenez. Cette responsabilité. La reconnaissance des autres membres du groupe aussi, parce que si dans le collège il y a des réticences de quelques-uns par rapport à cette nouvelle personne, eh bien, ça risque de mal se passer. Et puis, je rajouterai un processus de nomination biblique est reconnu par l'Assemblée et consigné dans un règlement intérieur. C'est-à-dire, comment est-ce que dans votre Assemblée, est-ce qu'un ancien est choisi et nommé? Il faut qu'on puisse discerner les éléments bibliques qui sont présents. Ils sont assez peu nombreux, mais il y a quand même quelques éléments bibliques. Ensuite, il faut que ce soit consigné pour qu'on ne puisse pas remettre en question, que quelqu'un ne puisse pas remettre en question la manière dont un ancien a été nommé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? J'avais dit que la première partie était plus biblique, la deuxième partie est plus basée sur l'expérience, l'observation, quelques écrits que j'ai consultés. Donc, je suis tout à fait ouvert à commentaire. On est dans les prérequis pour que la collégialité fonctionne, donc la légitimité de chaque membre du groupe. Ensuite, une vision claire et partagée des objectifs du groupe. C'est-à-dire, pourquoi sommes-nous là? À quoi servent les anciens? Quel est notre rôle? Quelle est notre fonction? À quoi est-ce qu'on sert? Parce que, bien sûr, si les uns pensent que le rôle des anciens, c'est de faire ça, et que les autres pensent non, l'objectif, c'est ça, bien, ça va tirailler dans le groupe. Donc, il faut un consensus sur à quoi est-ce qu'on sert. Et là encore, je pense que c'est utile qu'il y ait un cahier des charges des anciens. Quelle est la fonction des anciens? Est-ce que on regroupe tous ces verbes qu'on a nommés? Est-ce qu'on est là pour diriger l'Assemblée aussi? Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Est-ce que l'Assemblée le sait? Autre point, il me paraît utile qu'il y ait un accord sur le processus décisionnel. Il peut y avoir toutes sortes de questions qui se présentent. Si le collège d'anciens est divisé 50-50, qu'est-ce qu'on fait? Si on est trois anciens et que deux sont malades, est-ce que le troisième peut prendre la décision? Il y a la question de la présidence des séances. Qui préside nos rencontres? Est-ce que c'est à tour de rôle? Est-ce que c'est celui qui sent que l'esprit le pousse à diriger la rencontre? Comment est-ce que ça se passe? Je donne simplement à titre d'exemple à la CSR, commission pour nos assemblées, dont je fais partie, quand je suis arrivé il y a 8 ans. On pratiquait des présidences tournantes. Donc, on est un groupe de 8 à 10 personnes. Et quand on est nouveau, on arrive dans un groupe, on observe des choses que peut-être les autres ne voient plus. Et donc, j'ai constaté qu'il y avait des gens qui savaient mieux présider une réunion que d'autres. Et j'ai fait cette petite suggestion. Est-ce qu'on a tous le don de présidence? Et est-ce qu'on serait d'accord, est-ce qu'on se prêterait au jeu de que les autres frères reconnaissent ou pas un don de présidence? Et donc on a mis sur un petit paquet chacun trois ou quatre noms, je ne sais plus. Et puis en comparant, on s'est trouvé que, ah oui, on est plutôt d'accord pour dire que ces frères-là ont plus de facilité pour présider une rencontre que d'autres. Est-ce que ça va à l'encontre de la collégialité? Moi, je ne pense pas. Ce n'est pas donner une voix prépondérante au président. Donc, maintenant, on a un groupe plus restreint qui préside nos réunions. J'étais dans une assemblée avec une présidence tournante, ça se passait bien aussi. Que faire si le groupe est divisé sur une décision? Que faire si une personne n'est pas d'accord avec la décision prise par le collège d'anciens? Et je pense que s'il y a un cahier des charges qui dit que quand il y a une personne qui a un avis particulier sur une question, il n'a pas pouvoir de veto ou de blocage sur un collège d'anciens, parce que ça peut être auto-bloquant. Toujours dans les prérequis pour qu'il y ait une bonne collégialité, il faut qu'il y ait la confiance mutuelle dans le groupe, dans les relations saines. Et cette confiance mutuelle, elle se construit sur plusieurs choses. Il faut d'abord qu'il y ait une règle stricte de confidentialité. Trop souvent entendu l'histoire dans des églises où une question sensible est débattue en collège d'anciens Et d'un coup, toute l'Église est au courant, ou bien pire, une partie de l'Église est au courant, les copains d'un ancien, il faut d'abord pouvoir débattre en ancien. Si à un moment donné, il faut consulter l'Assemblée, ben, on le fait ensemble, sinon la confiance est brisée, bien sûr. Quand il y a la confidentialité, il peut y avoir la franchise aussi. On peut se dire des choses et être d'accord pour se dire la vérité dans l'amour. Il faut aussi, pour qu'il y ait de la confiance mutuelle, il faut qu'on exerce le pardon au sein du collège d'anciens. On avait dit tout à l'heure que le collège d'anciens, c'est comme l'ADN de l'Assemblée. On a des gens qui sont amers dans le collège d'anciens, qu'on ne sait pas pratiquer le pardon parmi nous, c'est une mauvaise nouvelle pour l'Assemblée. Pas forcément. D'ailleurs, ça arrive, je pense, dans les collèges d'anciens, quand on aborde un certain sujet, on se donne un petit rappel. Ce dont on parle ici, c'est confidentiel. Mais la règle générale, quand même, c'est la confidentialité.
Une question sur le sujet, est-ce que tout doit être partagé entre les anciens? Par exemple,
j'ai
une
visite, c'est
des choses qui ont été dites de manière confidentielle. Est-ce que les anciens sont forcément au courant de ce qu'ils
disent?
Non.
On peut être privé, il y a des fois, de l'engagement qu'on a dit à la personne. La personne nous demande, on parle à la personne, hein, et on fait prisonnier de ces paroles-là, au point même de ne pas en parler à son conjoint, ou pas en parler au conseil d'église. Et à mon avis, moi je me suis fait emprisonner plusieurs fois. C'est pour ça que j'ai dû trouver des formulations en disant, écoute, ce que tu me dis là, moi, m'a paru suffisamment important et lourd, et je vais pouvoir en parler au conseil. Est-ce que tu es d'accord pour insister à ce niveau-là? Parce que alors là, la notion de collégialité, et le principe, il est où dans la pratique? Donc c'est très très délicat, à la fois collégialité, confidentialité, et puis je sais, il y a des règles légales, suivant ce qui nous est partagé, que la loi nous oblige, donc l'équilibre, à mon avis, n'est pas... Il faut décrypter le pourquoi on demande de ne pas en parler à des personnes de confiance.
Vous pouvez voir au sein du conseil ancien, c'est qu'il y a des personnes qui sont... Un ancien va suivre une personne au recours, donc les autres le savent, pas le détail, on va savoir tout le détail de ce qui se passe, mais il y a des points de synthèse qui sont faits régulièrement, mais il y a tout ce qu'on peut partager, surtout dans les relations personnelles, pastorales. Voilà.
C'est personnel avec l'équilibre entre confidentialité et confiance. Oui. Il y a une confiance mutuelle qui fait que quand une personne a en charge un service, des soins pastoraux, on lui fait confiance, et si elle nous dit ça va, on fait confiance. On a besoin de rentrer dans les détails, d'avoir un rapport à ce qu'on pensait.
Bon, ça me paraît sage tout ce que vous dites. Quelques dysfonctionnements. Je ne sais pas pourquoi les gens rigolent avec ce truc. Quelques dysfonctionnements typiques constatés dans les conseils d'anciens. Premier dysfonctionnement, le non-renouvellement des membres. Ce n'est pas sain pour une église, je dirais même pour une personne, de rester à vie ancien dans son assemblée. Ça présente plusieurs problèmes. Par exemple, quand vient le moment où les autres, c'est devenu clair pour les autres qu'il faut que cette personne cesse d'être ancien, pour raison X, Y et Z. Ça peut être une défaillance spirituelle, ça peut être une question d'âge, mais qui va le dire à cette personne et sur quelle base il faut que tu arrêtes maintenant? C'est pas évident à annoncer ça à quelqu'un. Et finalement, le seul maître à bord, c'est la personne lui-même qui peut répondre, mais j'ai été nommé ancien, à vie, et pour des boulonnais, si vous pardonnez l'expression, ça peut faire des drames d'église. Donc, je parle à mon nom, mais au nom aussi de la CFR, on encourage les assemblées à fixer des mandats pour les anciens. Donc, je vous donne un exemple. Dans l'assemblée où j'étais à Grenoble, on avait des mandats de 3 ans qu'on pouvait renouveler une fois, donc ça faisait 6 ans, mais c'était, on présentait à l'assemblée à la fin de 3 ans, et puis on demandait à la personne de prendre une année sabbatique à ce moment-là pour pouvoir se représenter à la fin. Et puis il y avait aussi une limite cumule des mandats de 6 ans pour ne pas trouver des personnes très âgées comme anciens dans une assemblée. Il y a plusieurs raisons à cela, mais une des raisons, c'est qu'une assemblée évolue. Et une assemblée qui a nommé quelqu'un comme ancien en 1964, eh bien, en 2004 ou 2014, je suis prêt à parier que les personnes qui étaient là en 1964, il en reste plus beaucoup, avec déjà le décès, mais aussi les mutations, les mouvements dans une assemblée, ce qui fait qu'on pourrait avoir des anciens qui n'ont jamais été reconnus par l'assemblée qui est présente. Autre avantage, me paraît-il, c'est que ça encourage l'apparition de l'éclosion de ministères. L'occasion une fois peut-être de quelqu'un qui était un petit peu hésitant à partir après ses 6 ans en disant qu'est-ce qui va se passer, mais ça nous a obligés en tant que conseil d'anciens d'anticiper dans 2 ans, tel frère n'est plus là, déjà on cherche, on va former, aider quelqu'un à monter au créneau, et je trouvais ça plutôt positif en fait pour la santé. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça?
Est-ce que dans ton expérience, il y a beaucoup d'églises qui pratiquent ce renouvellement?
De plus en plus, oui. Autre avantage, disons que j'ai 30 ans, j'ai fait des études, je suis cadre, jeune cadre. J'aime bien ma femme, donc on a fait 3 enfants, et on me demande d'être ancien. Et je regarde les anciens de mon église, ils en prennent pour 40 ans en ferme. Ça m'incite pas trop. Donc, si je sais par contre que c'est pour un temps limité, je me dis après 3 ans, si je vois que ça ne va pas pour au niveau familial ou je ne le sens pas, je finis mon mandat et puis je peux partir comme ça sans scandale. Quoi.
L'année sabbatique imposée est une double protection, une pour l'ancien, parce qu'elle oblige à se poser une année et à sortir du secret de toutes les choses, des décisions, etc.
Oui.
Et c'est aussi une protection pour l'église, parce qu'on a vécu aussi des anciens, quand il n'y a pas de l'année sabbatique, finalement, ils ne sont pas dans le fond. Ils continuent sur l'avancée. En fait, ils sont renouvelés tous les 3 ans, mais ils sont anciens parce qu'ils sont là, ils sont imposants dans l'église. Alors que pendant un an, on a vécu sans eux, on se dit, ah, finalement, l'église, elle marche quand même. Et on se sent pas obligé de les renouveler après une installation. Ça protège les deux.
Je trouve ça intéressant, un frère qui a pris son année sabbatique, puis qui est revenu dans le conseil, il nous a dit, hey, les gars, ça fait drôle de vivre l'église de l'autre côté, vous ne communiquez pas assez sur ce dont vous parlez, et ça nous a poussé un peu dans la communication, le fait d'avoir vécu de l'autre côté. Donc il peut y avoir des mandats qui sont mal définis dans le règlement intérieur. On peut avoir un non-renouvellement aussi parce qu'il y a un manque de vision pour l'avenir, de recrutement. Je pense qu'une des fonctions des anciens, qu'on n'a pas nommé jusqu'à présent, c'est la formation et le recrutement de cadres pour tous les ministères dans l'Assemblée. Et c'est un sujet qui vient régulièrement sur le tapis, Et si on veut que cette personne ait cette responsabilité dans 3 ans, quelle formation est-ce qu'on doit lui proposer, quel encouragement, etc. Autre source de non-renouvellement des membres, c'est une appropriation malsaine du ministère. C'est-à-dire que je ne fais plus la distinction entre moi, ma relation avec le Seigneur et ma casquette d'ancien. Et si on m'enlève la casquette, eh ben je ne suis plus moi. Je suis très mal. On a attaqué ma personne et on n'arrive pas à poser cette casquette. À mon avis, ça, c'est malsain.
C'est
identitaire. Un autre dysfonctionnement de la collégialité est ce qu'on pourrait appeler la pensée de groupe. Alors, on trouve un chapitre sur la pensée de groupe dans un livre d'Alfred Kuhn sur les ministères que je vous recommande aussi. Mais est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que la pensée de groupe ? On peut définir ensemble. Donc. C'est la non-pensée.
C'est ce qu'ils appellent en politique la pensée unique, c'est ça ?
La pensée unique, tu peux développer un peu ?
Bah, c'est que tout le monde pense la même chose, parce qu'il faut penser ça.
C'est un des aspects de la pensée du groupe, une espèce d'uniformisation qui se fait à travers les années. C'est encore un argument pour le renouvellement des mandats. Oui, alors c'est pas la solidarité avec une décision prise en groupe. La pensée du groupe, c'est quelque chose de négatif. En fait, c'est les sociologues qui ont repéré ceci. Hein. C'est pas propre au milieu de l'Église, mais c'est propre à tout exercice collégial de l'autorité. C'est le décalage qui peut arriver entre le groupe et le vécu de l'Assemblée. Et c'est des enjeux internes au vécu du groupe d'anciens qui vont fausser les décisions prises par rapport à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'on est là, 4 anciens réunis un soir en conseil d'église, et il y a un problème dans l'Assemblée. D'accord ? On va discuter de ce problème pour trouver la meilleure solution. Mais en réalité, les relations dans le groupe vont beaucoup influer sur notre prise de décision. Si l'un des membres du groupe est mon patron, par exemple, s'il y a une forte personnalité, et en fait, le risque ou un membre de ma famille. Le risque serait que nous prenions une décision qui convient au groupe, mais qui ne répond pas en réalité au problème de l'Assemblée. C'est la pensée de groupe. Petit à petit, on s'est un peu isolé de la réalité, ou bien on laisse prédominer d'autres préoccupations, inconscientes plus souvent, par rapport au suivi pastoral de l'Assemblée. Donc, quand le groupe est fusionnel, par exemple, c'est la pensée unique. Quand il y a des pressions exercées dans le groupe pour l'uniformité, c'est une pression inconsciente souvent. Quand il y a une pensée d'immunité qui s'installe, la difficulté à se remettre en question, on s'auto-justifie en groupe dans nos décisions, mais on n'est plus à l'écoute de l'Assemblée. Il y a des silences qui sont pris pour consentement. Je n'ose pas dire mon avis, qui dit rien consent. Donc, peu ou pas d'écoute de l'Assemblée. Donc ça, c'est un danger qui peut s'installer dans un groupe qui fonctionne ensemble depuis longtemps. Oui.
On a beaucoup parlé du groupe de collégialité. Moi, l'expérience que j'ai faite, qui peut correspondre quand même à beaucoup d'églises, suivant la taille de la communauté, c'est finalement la collégialité ou le conseil d'anciens, à un moment donné, il ne reste plus que deux personnes. Mmh. Moi, j'ai vécu le ministère à plein temps avec un seul ancien. Ben, finalement, nous, on est arrivé à mettre un règlement intérieur qu'à un moment donné, c'est invivable. Déjà, ministère plein temps avec une personne, mais il faut être au minimum trois pour qu'il puisse y avoir quelque chose qui puisse se vivre au sein du groupe, au niveau des ingrédients. Quoi. Mm-hmm. Parce que dire à deux, c'est plus un groupe, c'est pas un groupe. Quoi.
Ouais,
c'est pas un collège. Quoi.
Ouais.
Moi, j'ai vécu assez difficilement, et puis l'autre frère, qui était aussi en église, l'a vécu aussi très mal, parce que voilà, c'est des équipes de partage, d'échange.
Oui.
Et comment faire?
Ben, il y a toute la question, parce que c'est une très grosse difficulté, la taille de l'église, l'histoire de la communauté, mais je crois qu'il faut que la communauté soit au courant de ça, avant que les deux survivants qui restent ne souffrent pas complètement et finalement il n'y ait plus de responsable dans l'église. Ça, c'est une manière un peu claire. Il y a des fois l'église, on n'en est pas conscient.
C'est une autre situation qui va se présenter en l'été prochain.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait? On fait avec ce qu'on a, on cherche un type profil, ou on fait avec ce qu'on a pour mieux, ou ajoute, on collabore avec quelqu'un d'autre, comment on peut faire? En attendant lui.
Donc, nous parlons de la situation idéale, bien sûr, qu'il faut viser et pour laquelle il faut prier. Quelquefois, les assemblées se trouvent dans des difficultés, des impasses où, pendant un temps, il faut fonctionner avec deux anciens ou on élargit le conseil un temps. Il y a plusieurs types de fonctionnement possibles avec les diacres. Pour remédier un temps tout en priant et en investissant dans la formation de nouvelles personnes. Alors, autre, en aidant les dysfonctionnements. Présence de liens forts autres que fraternels en Christ. Mari et femme dans le même conseil, parents-enfants, fratrie ou autre, on a évoqué patron, employé. Il me semble qu'aucune de ces situations n'est souhaitable dans un conseil d'anciens. Parce que si je suis avec mon frère dans la chair, au conseil d'anciens, est-ce que je suis vraiment libre de donner mon avis par rapport à une situation d'église ou est-ce que je sais que ça va avoir des répercussions sur ma belle-sœur ou sur mon neveu ou...
C'est... Et en plus, la légitimité de l'Assemblée...
Oui, elle est diminuée. Alors, dans l'Assemblée où j'étais à Grenoble, nous avons mis un point au sujet de ça dans le règlement intérieur. Alors, autre dysfonctionnement de la collégialité, la présence de personnes non qualifiées spirituellement, c'est-à-dire qu'ils soient colériques, orgueilleux, têtus. Ça m'est arrivé en tant que membre de la CSR de rendre visite à une église, des fois invité, des fois c'est dans des situations conflictuelles, et de trouver franchement des personnes en responsabilité d'anciens dans l'église, mais qui sont imbuvables. Et on se demande, mais comment est-ce qu'ils ont pu être nommés dans ce rôle? Quelqu'un qui n'est pas attaché à la saine doctrine, quelqu'un qui est psychologiquement dépendant de son titre d'ancien, nous en avons parlé, quelqu'un qui ne sait pas pratiquer le pardon, nous l'avons évoqué aussi. Donc, des fois, dans les assemblées, on est tiraillé, parce qu'il n'y a que deux anciens, il faut un troisième ancien, allez, on nomme cette personne, mais on se précipite un peu. Après, la marche arrière est difficile à trouver. J'étais dans une assemblée, on a eu cette expérience. En plein assemblée générale, il y a le trésorier qui nous annonce « Eh, au fait, je termine mon mandat ce soir. » Et petit panique à bord. Et aussitôt, quelqu'un qui lève la main pour dire « Moi, je veux bien être trésorier. » Alors tout le monde, alléluia, une solution est trouvée. Et donc, dans la même soirée, un trésorier qui démissionne, un autre qui est élu trésorier. On s'en est bien mordu les doigts après, il aurait fallu dire, bon, nous avons ici un problème, mais qu'on ne va pas résoudre ce soir, on va prendre le temps pour consulter les uns les autres. Autre possibilité de dysfonctionnement, c'est quand il y a une personne à fort caractère, par ailleurs très douée, très investie dans l'assemblée, et ce n'est pas une mauvaise intention, mais il y a des fois des caractères qui bulldozent un peu le reste du groupe, de par leur capacité de travail, de par leur consécration, et ça peut créer un déséquilibre. Une personne qui va finir par assumer toutes les tâches importantes, son avis va devenir incontournable, voire infaillible. Donc, ça peut nuire, bien sûr, à la collégialité. Autre dysfonctionnement, mauvaise présidence ou refus de présidence. J'ai assisté aussi à des réunions d'anciens où il n'y a pas de présidence de la soirée. On arrive, on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Là, tu sais que ça va mal se passer. Est-ce que vous serez d'accord pour dire que la collégialité n'exige pas des rôles identiques pour chaque membre du collège? Nous ne sommes pas interchangeables à l'intérieur d'un collège d'anciens. On est d'accord aussi pour dire qu'il y a un don de présidence dans la Bible, que celui qui préside fasse avec zèle, dit l'apôtre Paul dans Romains 12. Il y a des personnalités différentes, il y a des formations aussi qu'on a pris ou pas prises. Alors, je vais exposer une idée, et puis moi j'arrive vers la fin de ma présentation, donc on pourra en discuter et aborder d'autres points si vous voulez. Mais je m'appuie là sur un travail qui a été fait par quelqu'un d'autre, c'est un ami au Canada, et ils ont trouvé que dans un collège d'anciens, on risque, pas forcément, mais on risque de trouver trois types de personnes différentes, mais qu'on va tous appeler leaders, parce qu'ils sont tous appelés à mener l'assemblée, à faire paître le troupeau. Donc, il peut y avoir ce qu'on va appeler le leader visionnaire d'un côté, le leader administratif de l'autre, et le leader plus pastoral de l'autre. Alors, le leader visionnaire, voit la grande image des choses et se projette plus en avance. Il a un caractère qui ose un peu plus, qui est plus apte à prendre des risques. C'est quelqu'un qui est fait pour mener, qui a tendance à marcher devant, et les autres le suivent aussi parce qu'il a ce charisme. Il inspire le respect. Les gens ont confiance et le suivent. C'est d'ailleurs, ce genre de personne peut être très dangereuse si elle n'est pas bien entourée. Cette personne est sensible à la croissance de l'Église et à la mission. Il faut aller en avant L'église est là pour croître. Nous avons des ordres de marche et elle va regarder un peu plus vers l'extérieur, peut-être aussi. Cette personne va. Plus à l'horizontale. On va aller à l'horizontale. Le leader administratif, ça va être plus la personne qui va voir les détails, qui analyse, qui planifie, qui gère, qui va déployer des ressources, qui voit ce qu'il faut faire pour accomplir une vision. C'est quelquefois celui qui empêche de tourner rond aussi, qui pose la question, mais avons-nous les finances pour ça? Avons-nous les ressources humaines pour ça? C'est celui qui ramène les pieds sur terre, parfois, alors que le leader visionnaire est un peu rêveur. Mais c'est celui dont on a besoin aussi pour faire avancer un projet. Donc vous voyez déjà le type de partenariat qui peut exister entre ces types de personnes. L'un qui voit un besoin, qui dit bah, si on faisait ça, qui lance l'idée, mais il ne faut surtout pas lui confier la gestion du projet, parce que lui, il est déjà sur le projet numéro 2 ou 4. À côté de ça, nous avons le leader plus, avec plus de sensibilité, une sensibilité pastorale. Donc, lui, il ne voit pas si loin devant comme le visionnaire, il ne voit pas tant les détails comme le leader administratif, mais il voit les âmes. Et il se pose des questions doctrinales aussi. Est-ce que c'est éthique ce qu'on est en train de faire? Et est-ce qu'on ne va pas laisser sur le carreau telle ou telle personne? Il connaît les gens, il est à l'écoute. C'est celui qui va plus facilement rendre la visite pastorale. C'est la personne qui va pouvoir aussi trouver les ressources humaines, encourager, accompagner, former pour les personnes dont l'Église a besoin. Donc, le verbe qui convient à ce leader visionnaire, c'est peut-être diriger. On a vu que ce n'est pas un gros mot dans la Bible, puisque les anciens sont appelés à diriger le troupeau. Pour le deuxième, ça va être organisé, et pour le troisième, peut-être accompagné. Alors bien sûr, on est dans les caricatures, on schématise. Si on est ancien, c'est parce qu'on a tous une vision pastorale. On sait tous marcher devant, on a un sens d'organisation, mais on va avoir une sensibilité accrue d'un côté ou de l'autre, comme quelques personnages bibliques peut-être, comme Paul, Salomon, Barnabas. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous montre là? Oui? Quelle application faire de ça dans un groupe d'anciens?
Mais que des visionnaires.
Donc, tu es en train de dire, si on a le luxe de pouvoir choisir parmi un groupe de personnes tous qualifiées bibliquement, on pourrait chercher un équilibre.
D'accord. Poser la question de notre ancien, où est-ce qu'on se place à identifier peut-être clairement des dons et demander ce que les gens pensent à évaluer un peu.
Oui. Alors, il y a un petit exercice qui accompagne ce schéma que nous avons fait dans notre assemblée. On s'assoit parmi les anciens et on a demandé à chacun de dire, alors ton collègue de gauche, c'est quelle est sa personnalité dominante, est-ce que c'est 1, 2, 3? Et puis, en deuxième catégorie, tu le mettrais dans quelle colonne? Et on a fait ça autour de la table, et puis on a mis ça sur un tableau. Et on a trouvé qu'on était plus ou moins d'accord sur les personnalités des uns et des autres. Alors, une fois qu'on a fait ça, ça, en quoi ça aide? Partage des tâches, qui fait quoi?
C'est une culpabilité, parce que la plupart, on voudrait être les trois, c'est une vision qui sont très antinomiques, on ne peut pas être les trois. Des fois, on a tendance à vouloir tout faire, j'ai une vision en même temps sur toutes les personnes, et en fait, ces trois visions-là, sont rarement assurées par les personnes.
Vous avez entendu derrière? Ça peut nous déculpabiliser un peu, je remets dans mes mots, tu me dis si je me trompe, mais je peux me dire que ce n'est pas vraiment mon truc d'aller devant l'Assemblée, de vendre tel nouveau projet, c'est plutôt le visionnaire qui le fera mieux que moi.
Tout en étant attentif sur les évolutions des personnes, Philippe qui était appelé par le Saint-Esprit à la communauté à servir aux âmes, puis deux pages de vie plus loin, il se retrouve comme évangéliste.
Oui.
Donc, et ça, c'est dans les, chez des personnes, ça peut être aussi ça dans nos communautés, donc oui, ils sont sensibles aussi.
Oui. Et selon la composition du groupe, il peut y avoir des fois des chaises musicales, je prends un autre rôle, tel frère ancien est parti, tel jeune est arrivé, enfin, il peut y avoir. Et l'autre est agacé par chance. Oui. Se connaître et s'accepter, ce n'est pas du tout un jugement de valeur. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est simplement reconnaître des personnalités, des dons différents que le Seigneur a donnés. Un audit interne.
Un audit interne. C'est
intéressant. Tout à l'heure, par rapport au mandat des anciens, qui ne soit pas trop long. Le fait que les mandats ne soient pas trop longs, ça permet peut-être aussi à l'ancien, quand un nouveau ancien, justement, comme vous disiez là, d'essayer ou de se mettre dans une position, parfois, du fait de la réalité de la personne, qui n'est pas toujours celle qu'il avait occupée avant, et ça fait croître un peu ce que, pour rejoindre ce que disait le grand-mère, on apprend de nouvelles choses en essayant à nouveau. Du fait d'un changement, et puis ça aussi du bon.
Je pense aussi que ça révèle où sont nos besoins de formation, à chacun dans le projet social.
Oui. Quand il y a une nouvelle tâche, une nouvelle mission à confier, on sait qu'on va confier plus facilement à l'un ou l'autre selon. Ça va, c'est donc. J'aborde peut-être une dernière question. Je constate que dans le fonctionnement des assemblées, je n'ai pas une réponse très facile. Mais il y a toujours au minimum deux conseils. Et souvent on en trouve trois. Donc un conseil d'anciens, on est d'accord que c'est plus pastoral, c'est les grandes décisions de l'Église, c'est les grandes directions de l'Église. Et puis, comme dans les actes des apôtres, on va aussi avoir des diacres, on va se dire que c'est plus administratif. Mais une fois qu'on a utilisé ces mots, c'est plus pastoral, c'est plus administratif, dans la réalité des choses, un problème administratif peut très vite être un problème pastoral et vice versa. Donc, comment faire en sorte que ces deux conseils, et puis souvent il y a aussi le conseil d'administration de deux associations, les églises gèrent ça différemment, mais il y a là une source de conflit possible dans les églises. Donc, je ne sais pas si vous voulez que... on partage un petit peu autour de ce sujet. Est-ce que quelqu'un trouve que dans leur assemblée, vous avez trouvé un bon fonctionnement par rapport à ça? Je n'ai pas compris que le conseil élargi, c'était encore une troisième entité.
Non,
c'est quand il y a des anciens, les diacres sont ensemble.
Ça a commencé, c'était les frères qui étaient pas diacres, donc on ne peut pas faire ça.
D'accord. Donc le fait qu'anciens diacres soient ensemble aussi permet peut-être qu'il n'y ait pas trop de tensions ou d'anticiper. Des tensions entre les deux.
Il y a quand même, par rapport à ces différentes, on va dire, fêtes, il y a le risque, parce que les conseils d'administration dissocient des conseils d'anciens,
oui.
Des prises de pouvoir, par exemple, la conseil d'administration, sur une direction d'église. Donc là, c'est vrai que je pense que les garde-fous à mettre en place là-dessus, sur.
Qu'on a déjà vu, hein, un conseil d'anciens qui dit ben, il faut construire une nouvelle salle, mais le président de l'association qui dit en gros ben, c'est moi qui décide, c'est moi qui vais en prison ou pas. Bon, ça c'est un exemple.
Nous, ce qu'on a adopté notamment dans le règlement intérieur, c'est que le président de l'association, c'est automatiquement.
D'accord. Alors, si dans ma lecture des Écritures, le rôle d'ancien est réservé aux hommes, on trouve des femmes diacres dans le Nouveau Testament. Et personnellement, je trouve très utile ces réunions où anciens et diacres sont réunis et qu'il y ait des sœurs, parce qu'il y a un autre point de vue sur la vie de l'Assemblée.
On peut peut-être inverser la question, c'est-à-dire que la gestion de l'Église est faite par le conseil et qu'il y a à côté un conseil restreint qui ne contient que la partie pastorale. Parce que des fois, c'est un peu l'impression inverse que les anciens dirigent tout, et que de temps en temps, on ramène des diacres qui sont intéressés à la vie, alors que j'ai plutôt l'impression que la gestion de l'Église, que la vie courante de l'Église se fait dans le conseil à tout le monde, et puis que certaines questions ne sont pas abordées là, elles sont abordées dans un conseil restreint. Alors, c'est qu'une question de vocabulaire, mais ça change la mentalité de la façon dont on fait les choses et de la façon dont on associe tout le monde à la gestion de l'Église.
Oui. Et selon l'histoire de l'Église, la culture de l'Église, des fois, effectivement, on trouve un petit groupe d'anciens, mais qui gère presque tout dans l'Église, en faisant venir simplement de temps en temps des diacres, presque par acquis de conscience. Et je trouve que ça appauvrit un peu la vie de l'Assemblée.
Anciens respectent ce qui est du droit des diacres, pas du droit du cercle de responsabilité des diacres, mais les diacres le font dans le sens. Alors que si les anciens montrent déjà pas l'exemple en se mettant en tout, il faut les écouter finalement.
Je pense que on en revient un peu quelque part à la responsabilité, être dirigeant. Diriger, c'est donner des responsabilités. Je dirais, par exemple, si on est élève, je sais que c'est lui qui va le faire. bien délivrer, c'est bien délivrer et savoir donner de la responsabilité.
C'est pour ça que j'ai une toute explication de faire, dans le sens, par exemple,
ça que alors, le monde
pour
ça
qu'alors, il y a un
élargi, s'il y a des. S'il n'y a pas régulièrement quand même des réunions communes, ça tout, ça veut dire que bien qu'ils peuvent travailler de manière très
consistante. Voilà, il m'a semblé qu'il y a un principe, le principe du vis-à-vis dans la création, dans ce dialogue qui génère, qui produit quelque chose. Il m'a semblé bon que d'une part il y ait ce vis-à-vis entre les anciens sur certaines choses, mais que même vous, ce vis-à-vis se passe aussi avec les diacres ou certains diacres, certains nombres, parce que j'en ai des diacres qui n'ont pas une certaine sagesse, une vision d'église, etc. Ils pourraient être tout à fait à faire place à quelqu'un qui est aussi très spiritualiste pour l'église de Dieu, mais je veux dire, je ne peux pas des discernements, des bons enseignements et des choses comme ça. Et que dans un vrai dialogue, vis-à-vis, pas simplement pour encourager ces diacres, parce qu'il faut aussi les encourager, mais dans un vrai dialogue. Comment pensons-nous notre Église? Comment croyons-nous? Quel cadre voulons-nous donner? Ce que Dieu a fait avec Dieu, créons le monde, donnons le cadre pour avoir réel, qui sont les règles. Pourquoi pas, comme dans le couple, pourquoi pas, comme dans l'Église, ce vis-à-vis de discussion, un peu plus élargie et tiède, après les sujets de discussion d'avenir?
Dans certaines assemblées, le mot diacre est employé dans un sens. C'est large, le diacre des diapos le dimanche matin, le diacre du café. Je pense qu'il vaut mieux garder ce terme pour des personnes qui ont une vision un peu globale sur le diacre.
C'est
aussi
un diacre aussi, enseignement.
Travail. Par rapport à une fonction importante de nos églises, celui qui s'occupe de la comptabilité, de la trésorerie sur les églises, est-ce qu'il est reconnu? Est-ce qu'il est nommé? Ou est-ce que c'est la personne de bonne volonté qui a des compétences dans le domaine? Sachant que bien souvent, dans les communautés, les problèmes liés à l'argent, c'est des sujets qui sont aigus, ça touche beaucoup de choses. Quoi. Là, je trouve qu'elle n'est pas très spirituelle, quoi. C'est plus la bonne volonté de la personne compétente.
Et on oublie de lire la liste des critères bibliques pour le diacre. Alors, on arrive vers 17h.
La notion de jeunesse dans la présence de cette ville d'église.
Excuse-moi, mais je n'ai pas entendu ou pas compris.
Pour revenir sur le dernier congrès de Vichy, comment est-ce que la jeunesse peut être pratiquement intégrée là-dedans, sans avoir un titre, sans être chef ou quoi que ce soit, mais ils sont dans l'église, quoi. Et aujourd'hui, il me semble qu'ils le sont en puissance.
Alors, c'est une bonne parole pour me permettre de faire une petite page de pub avant de rendre la parole à Joël. Au sein des CAEF, on a à cœur les jeunes et la formation. Donc, on fait chaque été ce qu'on appelle le CRB. C'est une semaine de formation biblique pour les jeunes. On essaie de leur donner vraiment les bases dont ils ont besoin pour lire la Bible eux-mêmes, et progresser et surtout leur donner envie de continuer et avoir soif pour se plonger dans la Bible. Donc ça c'est sur 2 étés. Et puis après ça, on a une formation qu'on appelle le REF. Donc il y en a plusieurs ici qui l'ont fait, responsable en formation. Et pour vous donner une ordre d'idée sur ce qu'on fait au REF, ce que je viens de vous faire, en fait c'est mon cours pour les REFiens. Donc en fait, c'est vraiment une sensibilisation à la prise de responsabilité dans l'Église. Ça permet de donner une vision un peu globale sur le ministère de l'Assemblée. Je dirais, si vous avez des jeunes dans votre Assemblée, vous dites, dans 5 ans, cette personne-là pourrait vraiment être diacre ou ancien. Il y a là une bonne avenue de formation et qu'il faut les encourager à se lancer là-dedans. Alors, je vous remercie pour votre écoute et je prends la parole à Joël.
Merci.